franceinter.fr.
Bientôt 14h05 sur France Inter. Tout de suite, CO2, mon amour, avec Denis Chessou. Bonjour.
Mais oui, bonjour, cher Dominique Delarroy. Vous ne pouvez pas remplacer Yann Kefelec, là, qui n'est toujours pas là. Votre côté breton, n'est-ce pas? Il était peut-être en Bretagne. On l'a eu tout à l'heure au téléphone. C'était pas évident, là, évidemment. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il soit rédacteur en chef. Donc, oui, j'espère bien. Donc, on a un certain nombre de sujets qui, évidemment, ont un rapport avec l'homme. Et Fabrice Lex, c'est dit. Tenez, pour amadouer cet homme, nous allons débuter par son amour des phares. Pas le phare breton, hein, celui qui éclaire évidemment les hommes. Et donc on débute par cet extrait de L'Équipier.
T'as pris des manchons ?
Ouais.
Alors ça y est, la lettre, tu l'as envoyée ?
Jean.
Vas-y.
Allez, vas-y.
Ils vont merde ! Putain, t'es breton ou quoi ? Hein ? Les Bretons ou quoi ? Les Bretons ?
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec aujourd'hui à la technique Michel Bézikian et Éric Morin, et assisté de Virginie Leduo, c'est Fabrice L'Aigle qui réalise cette émission. Débuter par une petite humeur, alors avant d'aller vers le Grand Ouest, celui de Yann Kefelec et de la Bretagne, parce que nous sommes des gens tout à fait optimistes, bien sûr. J'ai d'abord vous emmener aux confins du Saumurois et du Poitou pour nous rendre à l'abbaye royale de Fontevraud. Ah, dame, le lieu ne manque pas d'allure, belle architecture, beau patrimoine. Cette ancienne abbaye, qui fut aussi une prison jusqu'au début des années 60, mise aujourd'hui sur le développement soutenable. Autrement dit, une belle chaufferie à granulés bois vient d'y être inaugurée. Circuit court oblige, le combustible est produit dans le Saumurois. En complément, presque une centaine de panneaux solaires ont été installés sur les toits et qui permettent ainsi, en théorie, au bâtiment de couvrir la totalité de ses besoins énergétiques. Le but étant de réaliser, pour un investissement de 6 millions d'euros, oui, la transition énergétique du site, conforme à la politique de développement durable voulue par la région Pays de Loire. Alors un tel scénario relayé par de jolies affiches sur lesquelles la pierre immuable se marie à un arbrisseau symbole de renouveau est évidemment idyllique, hein, on ne peut qu'applaudir. On serait tenté d'entonner quelques vibrants alléluia si un petit détail ne venait tempérer un si bel enthousiasme. C'est un fait bien connu. Asseyez-vous, Yann Kefelec, pendant ce temps-là. C'est un fait bien connu. Le diable se cache dans les détails. Il n'y a donc rien de vraiment surprenant à le voir surgir, au cœur d'une ancienne abbaye. Ce détail n'est autre que le captage d'eau potable qui alimente cette ville de Fontevraud et qui se trouve dans l'enceinte de l'abbaye, juste à un jet de pierre de cette toute nouvelle chaufferie. Et étrangement, malgré la déclaration d'utilité publique dont il bénéficie, vous avez des contraintes qui sont assez fortes sur le captage des eaux qui a été complètement oublié dans les travaux de la chaufferie. Eh oui, toute construction est interdite afin de ne pas risquer de polluer la ressource en eau. Qu'importe, on construira quand même. L'arrêté préfectoral prescrit cette interdiction pour tous les terrains limitrophes du puits. Broutilles, ce n'est que du papier. Le développement durable, au moins celui qui se voit et qui fait couper au ciseau de jolis rubans tricolores, n'attend pas. En bref, la chaufferie à bois, la caravane passe. Oui. Alors, sachant que la population locale ne dispose pas d'autre alimentation en eau hormis son captage communal, que se passera-t-il à terme si cette eau devient inconsommable du fait des travaux engagés? Ira-t-on alors tirer les oreilles des étourdis qui ont permis une erreur aussi grossière? Bon, alors il est vrai que l'on boit peu d'eau dans le secteur qui conserve le souvenir ému de ce bon Rabelais. Alors, l'homme nous a fait, il faut bien le dire, un petit peu des frayeurs. On arrive. Mais bonjour Yann Kefelec.
Bonjour Denis Chessou.
Voilà, écoutez, vous êtes arrivé tranquillement de la Bretagne, je ne sais pas, non, vous êtes pas.
Enfin, j'ai fait un détour par le métro parisien et je suis arrivé, oui. Enfin, je suis heureux d'être avec vous.
Bah oui, je sais bien. Et alors, donc, vous êtes rédacteur en chef un peu de cette émission, en parlant, on va dire, de manière large, rassurez-vous, hein, Yann Kefelec, d'environnement. J'allais dire que vous êtes un homme qui est barré à l'ouest, mais vraiment dans le bon sens du terme. Et donc là, vous revenez avec. cet ouvrage qui est ce dictionnaire amoureux de la Bretagne. Et on y trouve énormément de choses à l'intérieur. Ce sont de véritables coups de cœur, on s'en doute bien. On va pouvoir évidemment y revenir parce qu'il y a des thèmes environnementaux qui nous intéressent. Au départ, parce que tout à l'heure, on va parler d'énergie marine, mais on va vraiment prendre le temps. Quand je dis que vous êtes un homme qui a le cœur à marée haute, c'est-à-dire que cette mer, qu'est-ce qu'elle vous évoque ?
C'est-à-dire que quand on a le cœur à marée haute, on aime également beaucoup les marées basses qui sont d'une beauté stupéfiante en Bretagne et qui produisent des lumières assez uniques au monde. Mais le cœur à marée haute, c'est aussi la volonté d'être toujours dans l'optimisme, dans le rayonnement des choses et jamais ne se laisser abattre. Donc moi, à partir du moment où j'ouvre les yeux sur l'Atlantique en Bretagne, particulièrement lorsque je suis perché sur un rocher de la baie de Dut, et je finis par me sentir bien dans ma peau et bien dans ma planète, quelles que soient les difficultés qu'elle traverse.
Alors justement, c'est intéressant peut-être de parler de cette baie de Dut pour, on va dire que c'est donc une langue de mer qui va rentrer au fond de la terre. On connaît la baie de Dut, on connaît la baie Vrac. Le troisième, c'est
la baie Benoît.
La baie Benoît.
Yvon voilà. Madec, les huîtres de Patarcoum.
Voilà. Et ça a été votre première, on va dire, sensibilité à l'environnement, à la nature, à travers cette baie de Dut.
C'est un berceau familial, la baie de Dut. Vous dites que c'est une langue de mer, ce qui est exact, mais c'est également un étang fluvio-maritime, humecté d'un côté par une rivière, la rivière de la Baie, et de l'autre par tout l'océan Atlantique et par ces fameuses marées hautes et basses que vous signaliez tout à l'heure.
Alors, vous défendez depuis longtemps le caractère maritime de cette région de Bretagne. Ça, vous considérez qu'elle doit renouer avec une tradition maritime qui est assez combattue par l'Europe?
Oui, c'est assez désolant. Et là, j'en demande pardon à mon ami Cochon, qui lui, d'une certaine manière, se taille la part du porc, du cochon dans cette affaire. C'est vrai que tous les métiers de la mer aujourd'hui sont sur le déclin, que ces grands ports magnifiques, nous montrent des bassins déserts, que c'est extrêmement dommage à tout point de vue, également pour cette âme bretonne, qui est une âme inspiré par la mer depuis des siècles, voire des millénaires. Il ne faut pas oublier que les Bretons ne sont pas simplement des paysans, des éleveurs de cochons. Ce sont également des explorateurs d'horizons depuis toujours et qu'ils n'ont plus tellement l'occasion, du moins de par leur métier côtier, d'aller les explorer.
Belle ode au cochon aussi, dans ce dictionnaire amoureux de la Bretagne, édité chez Plomb. Vous dites, pitié, ne me demandez pas ça à moi. Détester le cochon, point d'interrogation. Je refuse, tout mon être dit non. Ah oui, il a tout bon et je sais qu'il a tout faux en même temps.
Pour moi, le cochon, si vous voulez, c'est le pâté Enaf. Ce sont ces voyages.
Dans le Finistère.
Dans le Finistère, ouais. Ce sont les voyages aux îles avec des pêcheurs de la région. Il y avait toujours un moment où quelqu'un avait dans sa poche une boîte de pâté qu'il ouvrait en pleine mer. Et ce cochon devenait un cochon de pleine mer, un cochon hauturier. C'était absolument délicieux. On tartinait comme ça du gros pain et l'on buvait du muscadet. Alors comment voulez-vous, puisque le cochon est d'une sorte d'amour d'enfance pour moi, comment voulez-vous qu'aujourd'hui j'ose le trahir? Impossible.
Voilà. Bon, alors on va avoir 3-4 sujets sur l'environnement. On va parler de l'extraction de sable. Je vais vous emmener aussi au Cap Sizun que vous connaissez très bien. On parlera des mouettes tridactyles, on parlera des énergies marines, mais on va peut-être aller du côté de Brest d'abord. Et oui, avec un homme que vous connaissez très bien et qui s'appelle Miossec.
Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest? La règle porte ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre par la renverse. Que l'on délaisse la rue des Siam, c'est nuit d'ivresse. Ce n'est pas par manque de politesse, je suis l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe. Mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espèce? Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Le nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Le nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Même la terre part à la renverse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Est-ce que toi aussi
dynamique.
C'est où de mon amour, Denis Chessou.
C'est du brutal.
Sur France Inter.
Voilà, c'est du brutal et c'était du Montalbanais, ça. Mais nous n'allons pas à Montauban, mais non, pas du tout. Nous sommes avec Yann Kefelec en direct sur France Inter, CO de mon amour, la Bretagne à l'honneur, avec différents sujets et avec vous, Yann Kefelec. On va peut-être commencer par une histoire de marchand de sable. Alors, vous allez entendre...
Volontiers, ça ne me fait pas dormir.
Voilà, et bien là, ça ne va pas faire dormir non plus, c'est même peut-être parfois des cauchemars. Et on va rejoindre un garçon que l'on connaît. Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis Chessou.
Alors Frédéric Danhé, vous intervenez régulièrement dans cette émission. La semaine dernière, c'était avec votre ouvrage sur les OGM, où ça a été d'ailleurs assez polémique et donc tout à fait intéressant. Cette fois-ci, parlez-nous, s'il vous plaît, du sable, on va dire, un peu en général. Que peut-on dire de ce sable marin?
Alors le sable, effectivement, on en a parlé récemment avec ce documentaire d'Arte, qui a fait découvrir à beaucoup de gens que le sable était en quantité limitée. Eh bien oui, le sable est en quantité limitée. Pourquoi? Parce que la totalité du sable qui recouvre les plages de la totalité des littoraux du monde vient de la dernière glaciation. C'est-à-dire qu'à l'époque où la mer était allée 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui en Bretagne, à l'époque où d'ailleurs il n'y avait pas de manche, où la Seine devait aller jusqu'à Brest pour trouver la mer, eh bien se sont accumulé des quantités phénoménales de sédiments, de vases et du produit de l'érosion des montagnes par les glaciers. Vous savez que les glaciers jouent un rôle de rabot. Eh bien, la matière des montagnes s'est accumulée là où il n'y avait pas la mer. Et quand la glaciation s'est donc arrêtée, le phénomène d'érosion s'est arrêté et depuis, nous vivons avec exactement la même quantité de sable depuis 6000 ans. Alors, il faut quand même savoir que depuis 2000 ans, la quantité de glaciers sur Terre a tellement diminué que l'érosion a diminué fortement au point que aujourd'hui et depuis 2000 ans, il y a beaucoup moins de, si vous voulez, de sable créé, de sable qui s'accumule sur les plages, que de sable qui est repris par la mer sur les plages. Donc, ça fait 2000 ans que le sable est en quantité chaque année de plus en plus réduite.
Quand on extrait du sable des fonds marins, les animaux et les plantes qui vivent là sont eux aussi aspirés. Et tout organisme vivant est éliminé. Or, ces organismes constituent la base de la chaîne alimentaire des espèces qui vivent dans la colonne d'eau supérieure. Et tous les poissons dépendent des fonds marins pour trouver de la nourriture.
Le sable est donc l'élément fondamental de l'écosystème sous-marin. Et la survie de toutes les espèces, des plus petites aux plus grandes, en dépend.
Et on va rejoindre maintenant Alain Bidal, qui est le président du collectif Le Peuple des Dunes en Trégor, l'association aussi Trébeurdun Patrimoine et Environnement, parce qu'il y a donc un conflit au large de Trébeurdun. Vous voyez le calvaire, vous voyez la crêperie, Trébeurdun c'est entre les deux, mais enfin c'est plutôt du côté de Lannion quand même, c'est très beau. D'un côté vous avez les sénateurs qui demandent l'assouplissement de la loi littoral, de l'autre côté vous avez Ifremer qui émet un avis réservé sur l'extraction du sable. Alors on va faire un petit point avec vous Alain Bidal, on est à 5-6 kilomètres, donc on est assez proche des côtes.
Le fait est que nous sommes, le gisement convoité se trouve entre deux zones Natura 2000 et ce qu'on appelle une dent creuse. C'est à un kilomètre de chaque côté des zones. Alors Natura 2000, rapidement, hein, c'est un espace qui a été créé suite à une directive européenne pour protéger la flore, la faune et les habitats.
Alors ce projet est quand même porté par la compagnie armoricaine de navigation. Est-ce que ce sont des gens donc qui veulent extraire du sable d'un côté pour s'en servir, mettons, pour le bâtiment, ou bien est-ce que ça concerne la navigation ?
Non, alors le pétitionnaire, effectivement, était habitué jusqu'à maintenant à extraire du merle. C'est une algue calcaire qui était utilisée pour l'amendement des sols acides agricoles en Bretagne, mais partout, hein, en France aussi, mais qui servait aussi pour les stations d'eau potable. Suite à une directive européenne, le merle a été classé habitat protégé, donc plus le droit d'extraire le merle. Donc là, aujourd'hui, il y a un industriel qui se présente, qui exploitait déjà le merle. Et comme il ne peut plus exploiter le merle, il va se retourner vers un gisement de substitution du carbonate de calcium, à peu près identique au merle, pour la même finalité de l'amendement des sols agricoles.
Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ce projet, mais pourquoi ?
Alors, nous, on n'est pas d'accord, parce que, je vous l'ai dit, il se situe entre deux zones Natura 2000. Et ils vont venir exploiter sur une dune sous-marine. Alors le terme, c'est une dune hydraulique parce qu'elle est constituée par les courants marins. Elle date de 10 000 ans environ. Et c'est un refuge à lançon. Le lançon, c'est une espèce de petite anguille qui se réfugie dans le sable là, qui vit là, qui se reproduit là. C'est une nourricerie, une frayère. Et donc, comme il y a ce petit lançon, qui n'a pas de valeur commerciale, mais il est important parce qu'il attire les prédateurs à forte valeur commerciale, barres, lieux, raies, turbots, enfin tous les poissons nobles qu'on peut trouver. Et ce qui fait que c'est une zone essentielle, importante en tout cas, des pêcheurs, des marins pêcheurs de toute la baie, qui viennent de Morlaix, qui viennent aussi de Paimpol.
Et aussi pour les oiseaux.
Et aussi pour les oiseaux, parce que notre réserve naturelle des sept îles, qui est un lieu unique en Europe, hein, la réserve naturelle gérée par la LPO, les oiseaux sont là et ils viennent aussi se nourrir de ces lançons. Hein.
Alors quelles alternatives vous pouvez proposer ? Parce qu'on sait qu'il y a des antécédents du côté de l'île de Bréhat, avec des poussières qui retombent sur le sol, mais qu'est-ce que vous pouvez proposer comme alternative ?
Il y a des alternatives de lieu d'abord. On leur demande d'aller extraire plus au large, où là, les impacts seront moindres.
Mais là, ils vont vous dire, oui, mais ça coûte trop cher parce que c'est beaucoup trop loin.
Oui, mais l'industriel, c'est lui. C'est recommandé aussi par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui dit qu'il n'y a pas eu d'études sur d'autres sites situés plus au large. Et des alternatives de matière. La matière, on peut trouver autre chose pour amender les sols agricoles. Il y a la chaux, il y a la tangue du Mont-Saint-Michel, qui est, par exemple, une espèce de vase, si vous voulez, mais qui contient aussi beaucoup de carbonate de calcium. Il y a la crépidule, ce fameux coquillage invasif là, qu'on peut aussi traiter et utiliser. Et puis, il y a aussi, pourquoi pas, le concassage des coquillages consommés. Ça paraît comme ça un peu léger, mais non, on peut faire de très beaux tonnages avec tout cela.
Aujourd'hui, le dossier est entre les mains du Conseil d'État ?
Alors, aujourd'hui, effectivement, le dossier est entre les mains de la section des travaux publics du Conseil d'État, donc vous le savez, pour avis pour les ministres. Le ministre compétent, c'est le ministre du redressement productif, en collaboration avec Mme Bateau et puis M. Cuvillier, ministre de la Mer. Normalement, la décision devait intervenir le 15 janvier 2013, c'est-à-dire 3 ans après la date du dépôt du dossier, hein, 15 janvier 2010, 15 janvier 2013. Pas de réponse à ce jour, ce qui veut dire qu'on est en face d'un rejet implicite. Mais l'administration peut reprendre à tout moment son rejet implicite pour prendre une décision explicite, et ce, à tout moment et sans limite de temps.
Donc, affaire à suivre. Qu'est-ce que cela vous inspire, Frédéric Denhay ?
Je salue Alain parce que...
Oui, bonjour.
Parce que je connais son combat et je connais bien ce qui se passe à Trébeurdun. Moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'est-ce que vous voulez ? Tout le monde est contre, tous les élus, pour une fois, sont contre, tous les corps professionnels sont contre, et pourtant le préfet dit qu'il faut continuer. Donc là, j'avoue que pour l'exercice de la démocratie, c'est un peu particulier. Voilà ce que ça m'inspire. Après, d'une façon plus globale, et ça je vais peut-être en surprendre plus d'un, on connaît très très peu de choses sur la courantologie locale, c'est-à-dire sur les mouvements de la mer le long des côtes, et on connaît très très mal le mouvement du sable, hein, ce qu'on appelle la sédimentologie, le long des côtes. Et il y a des laboratoires qui sont développés en France, qui sont en train de travailler là-dessus, mais on connaît très mal ça. Juste pour rappeler des souvenirs à nos auditeurs, il faut savoir que la construction du mur de l'Atlantique sur les côtes de l'Aquitaine, hein, dans les années 40, a considérablement accéléré l'érosion des plages. Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on a pris tellement de sable dans la plage, dans les plages de l'Aquitaine pour construire les bunkers, que les plages ont vu cette érosion accélérer. Et en plus, le seul fait d'avoir creusé des trous et d'avoir modifié la courantologie locale pendant quelques années a suffi pour accélérer encore un peu plus l'érosion.
Donc ne confondons pas les blocos avec des châteaux de sable.
Ah non, c'est pas des châteaux de sable. Non, non. En tout cas, les marchands de sable derrière, ben, ils nous font pas rêver. Et ils nous inquiètent plutôt avec cette affaire-là.
Voilà, Yann Kefelec, donc sur ce petit dossier. En même temps, on sait qu'une France doit construire, il y a du bâtiment, il y a des choses à faire. Donc il faut quand même extraire quelque part des granulats, extraire du sable. Mais on voit bien là quand même les oppositions, les conflits les uns avec les autres, et aussi d'ailleurs le monde associatif qui a toujours fait bouger et évoluer le monde de l'entreprise.
Et dans ce point de vue d'ailleurs, chapeau aux Bretons qui ont toujours été des résistants comme ça lorsque les industriels se mêlaient de tripatouiller leur littoral. Alors ce sable, c'est pas d'hier, bien entendu, quand l'extrait en Bretagne, moi j'ai vu les gabarres de la Béryl d'Hutte rentrer chargés de sable à bloc et également chargés de merle, mais elles le faisaient en petite quantité. Ce qui est toujours inquiétant maintenant, ce sont les quantités, bien entendu, qui vont disparaître sans qu'on ait son mot à dire et sans qu'on sache exactement dans quelle proportion ce sable aura été puisé. Je me méfie également des apprentis sorciers qui sévissent dans la région, même si sous les voies, avec de bonnes intentions d'installer des parcs éoliens ou des parcs hydroliens, eh bien tout de même, ils s'en prennent aux équilibres écologiques des régions, des eaux et des mers. On ne sait absolument pas sur le régime des courants quelle sera l'influence des hydroliennes. On ne sait absolument pas non plus si ces éoliennes, ces parcs éoliens qu'on va installer en pleine mer ne vont pas complètement rendre fous et les oiseaux et les climats au passage, voire le régime des marées. Donc moi je reste extrêmement sceptique et prudent lorsque je vois ça. Ce qui ne veut pas dire que je suis un ennemi du progrès lorsqu'il est bien organisé.
Alors il y a fort heureusement des chercheurs qui travaillent sur ce côté benthique, comme on dit actuellement, mais c'est vrai qui travaillent plutôt sur ce qui se passe dans d'autres pays, autrement dit l'Angleterre, le Danemark, l'Allemagne, parce que là, il y a beaucoup plus d'avance. On pourrait y revenir d'ailleurs parce qu'on va parler d'énergie marine d'ici quelques instants. Mais ce que je vous propose peut-être avant, c'est de faire un tour. Là, ça va être notre page nature et ça va être de partir avec vous du côté du Cap Cise, que vous connaissez bien.
Hein,
donc on a la pointe du Raz qui n'est pas très très loin. Et déjà, on va poser le décor avec Alain Thomas, qui est l'ancien garde animateur de cette réserve naturelle superbe du Cap Cise. Alain Thomas, qu'est-ce que nous apercevons là juste en face de nous? C'est la presqu'île de Crozon, c'est ça?
Oui, au plus près, là c'est le cap de la Chèvre, c'est-à-dire la pointe sud de la fameuse croix qui termine la presqu'île de Crozon. Et puis ensuite, un peu plus à gauche, c'est-à-dire vers le nord-ouest, là, il y a l'état de Poix, donc c'est toujours la presqu'île de Crozon. Et complètement en face, c'est la pointe Saint-Mathieu, c'est-à-dire la côte qui vient de Brest, si on veut. La pointe Saint-Mathieu qui fait face à l'archipel de Molène et à l'île d'Ouessant.
Oui, ça fait un joli panorama pour les mouettes de la réserve alors. Ça.
Ouais, la localisation des colonies doit certainement prendre en compte ce genre de choses. On est pratiquement à mi-chemin entre le grand large, des zones déjà un peu océaniques, profondes, et puis des baies un peu fermées comme la baie de Barnenez.
On peut respirer pleinement là, Alain Thomas.
Oui, c'est pas la Côte d'Azur ou les terres en retrait de la Côte d'Azur, mais ça sent bon. Oui. On est en pleine période de floraison là, dans les bruyères. Là. Si on voulait herboriser un tout petit peu, on a les trois sous les pieds. Les chevilles piquent un peu. Là. On a les bruyères cendrées, la bruyère ciliée, et puis une qui, des fois, dans d'autres régions de France ou même de Bretagne intérieure, peut atteindre 1,50 m de haut. C'est celle-là, la calune. Mais ici, évidemment, sur ce sol très maigre et puis face au grand large, bon, le développement est très, très limité. On a déjà une calune qui fait 30 cm de haut. Là, c'est assez beau.
C'est expo, là.
Là, on a une très très belle fleur qui s'appelle la verge d'or. Extraordinaire. Mmh.
Celui que vous connaissez, Yann Kefelec, on est à peu près à moins de 20 km d'Édouard Nenez et la pointe du Raz est juste derrière.
Tout à fait, la pointe du Raz, l'île d'Ossin naturellement. Mmh. Et ce que disait notre ami là, au micro tout à l'heure est tout à fait exact. C'est la saison des bruyères actuellement. Et on ne soupçonne pas que ces immenses langues de terre, que sont ces pointes et ces caps, apparaissent mais comme des chefs-d'œuvre totalement roses ou rouges. Mmh. Et au crépuscule, c'est particulièrement beau.
Alors nous avons des moutons, il faut imaginer des moutons ouessantins et de lande de Bretagne qui sont là pour pâturer les pelouses, donc de manière tout à fait naturelle et écologique. Cette réserve en fait naturelle est une réserve historique, c'est la réserve historique de l'association Bretagne Vivante. Elle a été créée en 1959, donc c'est une quarantaine d'hectares. Et ceci bien avant les premières lois sur les réserves naturelles. La Bretagne a toujours été en pointe dans ce domaine. Alors on va parler des mouettes tridactyles, vous allez voir ce que c'est. Alors c'est vrai que pendant un temps elles étaient là tout à fait tranquilles. Et puis, il y a un phénomène naturel qui s'est produit. Le faucon pèlerin est revenu. Il s'est dit, c'est pas mal comme site, je vais m'y installer. Allez, il s'est dit, en 2005, j'y vais. Donc, il a créé quand même un peu la panique dans les colonies, en laissant les œufs, les poussins sans protection. Les goélands, les corneilles sont arrivés. Mais il y a quand même encore quelques mouettes tridactyles, même si elles sont parties pas très loin. Elles sont parties du côté de la pointe du Raz, parce que se sont dit, je serai plus à l'écart, mais quand même. Alors, avant de parler des mouettes tridactyles, il y a aussi d'autres oiseaux, Alain Thomas, et là, on était face à ce qu'on appelle un pipi de Farlouze.
Il ressemble beaucoup au pipi des arbres, donc je n'ai pas apporté beaucoup d'explications. C'est une sorte de quoi, de mini grive, hein, qui finalement aurait une allure aussi de bergeronnette. Enfin bon, c'est généralement un oiseau que les gens qui habitent dans les villes peuvent rencontrer à l'automne ou parfois même en début d'hiver sur les pelouses des grands parcs urbains. C'est au moment de la migration, il s'arrête. Ça m'a souvent un peu frappé, ce genre de choses. Ils retrouvent sur ces pelouses un peu les prairies dans lesquelles ils vivent au printemps.
Et nous descendons un chemin au milieu des fougères, au milieu aussi un peu des bruyères. Et nous sommes environ 55 mètres, 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, Alain.
C'est ça, oui, 55 mètres.
Oui. On va faire attention, bien sûr, de ne pas commettre de faux pas. Il fait un temps tellement clair aujourd'hui, Alain Thomas, qu'on aperçoit non pas les îles d'Ouessant, parce qu'elles sont quand même trop éloignées, mais les îles de Molène.
Oui, c'est ça, on voit deux, au moins à l'œil nu déjà, on voit deux îles de l'archipel, c'est-à-dire les îles qui sont dans le sud, sud-est de l'archipel. Il y a au moins Béniguette, la première qu'on voit, celle qui est la plus proche du Conquet. Mmh. Alors pour nous, c'est un ensemble naturel remarquable, c'est un des grands monuments naturels de Bretagne.
De la descente vers les nids. De ces fameuses mouettes. Ah, alors là, nous sommes à l'un à peu près à une dizaine de mètres. Oui, retenez-moi, merci. À une dizaine de mètres des mouettes. Et là, on voit les couples.
C'est un HLM.
Oui.
Un HLM à mouettes tridactyles, alors c'est leur habitat classique, hein. C'est l'habitat optimum pour ce genre d'oiseau. C'est-à-dire qu'elles poussent la difficulté à ne retenir que les corniches qui ont une largeur de l'ordre de 15 à 20 cm, c'est tout. Si elles faisaient 5 ou 10 de plus, elles ne les utiliseraient pas, au moins pour faire le nid et donc se reproduire. On entend un petit cri aigu, hein. C'est tic-tic, là, enfin, très aigu pour ce genre d'oiseau. Là, c'est un gros poussin, c'est même un juvénile, puisque vu la taille de ses ailes, il doit être capable de voler parfaitement. Il est en train de mendier de la nourriture face à son père ou à sa mère, qui reste parfaitement indifférent pour l'instant.
Ils sont calmes là, hein ?
C'est quasiment somnolent. Normalement, il doit y avoir une clameur permanente là, mais ça s'explique par le fait qu'on est en fin de reproduction. Donc il y a beaucoup de tensions sociales en moins, si l'on veut. Il suffit de bien regarder, on voit des nids à certains étages de l'HLM. Là, on a des nids vides, donc les occupants adultes ou juvéniles sont partis. Donc ça engendre de fait beaucoup moins de conflits territoriaux. Il n'y a plus de parades. Les seules choses qu'on puisse encore entendre vont provenir de gros poussins à l'envol qui sont en train de quasiment de s'émanciper là et qui appellent encore les parents pour avoir un peu de nourriture, ou alors des cris qui pourraient être lancés par des mâles immatures, c'est-à-dire peut-être des mâles qui l'année prochaine à l'âge adulte vont venir se reproduire, et pour l'instant ils profitent des vides laissés par les adultes déjà partis pour un peu se familiariser à la colonie et essayer de repérer pour l'année prochaine un site de reproduction. Alors voilà, on a entendu là un cri de mouette tridactyle, presque le cri d'allégresse chez l'espèce. Et les deux partenaires qui sont là ne se sont pas reproduits cette année. Vraisemblablement, ils occupent un nid maintenant abandonné. Et l'année prochaine, quand le mâle va arriver pour essayer de retrouver ce nid-là, il aura quelques difficultés parce qu'il va, il y a 9 chances sur 10, retrouver le locataire, le propriétaire de l'année précédente.
Avec le bail, oui.
Voilà, avec le bail en poche en plus.
Quelle différence y a-t-il, Alain, avec les mouettes que l'on peut rencontrer en région parisienne le long de la Seine ?
Je veux dire, la différence principale porterait surtout sur les zones fréquentées par ces mouettes tridactyles. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les mouettes ou les goélands, en gros, c'est la même chose. Ces mouettes ou ces goélands sont des oiseaux le plus souvent de mer et le plus souvent littoraux. Ce que la mouette tridactyle a de particulier, c'est que c'est une mouette océanique. C'est-à-dire que lorsque la reproduction se termine, eh bien, elles partent très très au large. Pratiquement chaque année maintenant, dans les mois qui suivent un hiver, on reçoit du Groenland des bagues de mouettes tridactyles nées ici sur le Cap Sizun et qui donc ont conduit un voyage malheureux, donc un voyage qui les amène même sur la côte ouest du Groenland, c'est-à-dire côté Amérique du Nord. Et bon, certaines d'entre elles sont mangées par les Esquimaux, bon, mais ils travaillent très bien puisqu'ils nous renvoient l'information, donc tout est parfait.
Ah oui, là ça se bagarre un peu, c'est au toit de là que je m'y mouette, hein, en quelque sorte.
C'est l'ambiance permanente, l'ambiance sonore permanente dans un mois de mai ou dans un mois d'avril.
Alain, les mouettes cohabitent-elles correctement avec les militaires, puisque là nous avons la presqu'île de Crozon sous nos yeux, donc tout n'est pas militaire, mais enfin il y a quand même l'île Longue, il y a Brest qui n'est pas très très loin, il y a donc Crozon, comment ça se passe ?
Alors dès lors que l'étang d'Arcate ou le super Frolon ne passe pas au ras de la colonie, bon, il n'y a pas de dommage si on veut.
Bon, ils ne le font pas d'ailleurs.
Non, pratiquement pas. Non. Enfin, ici, il est normalement interdit. Il y a eu une ressucée de survol là, cet été. Il y a dû y avoir des manœuvres. Enfin, il y a une espèce de paradoxe. Il ne faut pas hésiter, je crois, à le dire. C'est que d'une certaine façon, c'est aussi démontré dans d'autres régions de France. C'est vrai qu'à certains endroits, il y a des camps militaires qui sont intéressants pour les naturalistes, parce que c'est vrai que le grand camp des Garrigues, derrière la ville de Nîmes, bon, à 8 km à vol d'oiseau du centre-ville de Nîmes, on trouve des percnoptères d'Égypte, des aigles de Bonelli, du circaète, des castors.
Ils ne sont jamais tirés, là. Hein.
Alors, mais ils sont peut-être victimes de temps en temps d'un missile qui s'égare, mais... Oui. Bon.
Alain, puisque vous êtes du coin, quelle mentalité on a ici au Cap Sizun ? Parce que, en discutant un peu avec les gens, on a quand même l'impression qu'ils sont d'ailleurs.
C'est un peu l'insularité, avec toutes ses qualités, ses originalités, et puis donc de résistance un peu à ce qui est étranger. Et c'est bon, bah c'est un peu plogoff.
Le Cap Sizun avec ses mouettes tridactyles. Merci à Alain Thomas, merci aussi d'ailleurs à Damien Védrenne et puis Pierre Le Floch, parce que maintenant ce sont eux qui s'occupent de cette réserve, la plus ancienne. Voilà, petite réaction.
Moi, j'ai admiré la façon dont Alain Thomas parle des oiseaux. avec une voix très douce et en même temps une connaissance réelle du terrain. Je pense que c'est un charmeur d'oiseaux, que quand les mouettes le voient approcher, elles viennent manger directement dans sa main. J'ai beaucoup apprécié aussi le jeu de mots de Denis Chessou, là. Ôte-toi de là que je m'y mouette. J'aurais aimé trouver cette blague moi-même.
Très bien. Écoutez, bah vous avez, tout à l'heure, vous avez déjà eu la chaufferie à bois et la caravane passe, mais parce que j'ai mangé du clown, c'est pour ça.
Ce que j'ai moins aimé, c'est de parler de l'habitat des mouettes en disant une HLM, parce que alors là, je me sens brusquement dans la région parisienne.
Mais c'est vraiment, disons qu'il y a du monde, voyez, c'est aussi le côté social là-dessus. Vous avez de très jolies phrases aussi sur les goélands dans votre dictionnaire amoureux de la Bretagne.
Ah, mais je ne les connais pas par cœur, mais il est certain que... Enfin, il y a de très jolies phrases, notamment pour les amateurs de muscadet qui, lorsque le verre se vide, disent que les goélands ont pied dans leur verre, donc il est temps, bien entendu, d'opérer une remise à niveau.
Je comprends bien, donc c'était... Mais c'est pas grave, c'est bien aussi comme... Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi les goélands ont un petit point rouge sur le bec?
Je serais vraiment très heureux de l'apprendre en direct. En plus.
Alors, en fait, ce sont les petits, lorsqu'ils ont faim, ils vont taper parce qu'ils repèrent ce point rouge. Ils vont taper sur le point rouge. Et donc, ça, en gros, c'est le réfrigérateur qui va s'ouvrir. Ça veut dire, j'ai faim, voilà, donc nourris-moi.
Oui, c'est magnifique.
Comme il n'y a jamais rien de gratuit dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. D'une façon quand même générale, c'est vrai que vous commencez votre dictionnaire, donc ce chant, j'allais dire, polyphonique à la Bretagne. Quand même, là vous y allez, vous parlez vraiment aussi de l'environnement en disant quelque part assez quoi, d'un idéal qui sacrifie mère nature à l'or noir des nantis, assez d'un progrès fanfaronnant sous les autorités jumelles du fric et du flingue. Il n'y a pas eu plug-off ni des mégawatts du pèlerin, il y a eu la peau des pêcheurs, des poissons, des abeilles, il y a eu l'herbe de Brinilis qui est toujours irradiée, il y a ces marées noires, ces marées vertes, il y a son algue vireuse, responsable mais pas coupable, etc.
Et parce que effectivement, ce livre est un chant d'amour à la Bretagne, qui peut d'ailleurs se lire dans la continuité, même s'il porte le nom de dictionnaire. Mais c'est un chant d'amour qui n'est absolument pas passéiste. C'est pas simplement de la nostalgie dont je fais état sur 800 pages. Je veux également montrer la Bretagne dans son ancrage actuel, avec les difficultés qu'elle doit affronter, et que d'ailleurs elle affronte, parce qu'en effet, vous l'avez souligné, le Breton a résisté à plug-off, et je trouve très intéressant qu'aujourd'hui, il ne se laisse pas extraire son sable sans sourciller.
Voilà, même s'il est en déficit, on va dire, énergétique aujourd'hui, parce que la Bretagne, en fait, produit 8% à peu près de mémoire de ce qu'elle consomme. Donc après, ce sont des solidarités entre territoires. On en a déjà parlé pas mal dans cette émission. Et puis, tenez, le homard aussi intervient. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport entre le homard et le muscadet, je ne pense pas, mais...
Oh, si, il y a un lien direct entre le homard et le muscadet. Je ne sais pas si le homard a le nez rouge, et si les petits viennent réclamer leur pitance comme ils le font, les petits goélands. Mais une bonne nouvelle, en tout cas de Nichessou, c'est que le homard breton, le homard bleu, se porte de mieux en mieux. Alors c'est pas, évidemment, pour les poissonniers, ce n'est pas une très bonne nouvelle, parce qu'ils vont être obligés de casser le cours du homard, mais pour l'amateur de ce roi des crustacés, c'est forcément une grande chose.
Et on a quand même aussi de bonnes nouvelles sur le front de l'environnement, ce qui nous arrive. Alors, Jacques Higelin, ça va faire du bien à tout le monde. Tenez, c'est ode à la vie avec Higelin, pour tout le monde. Chemin qui vibre.
te mène sur ta voie. Tant que je sentirai vibrer la terre sous mes talons, respirer le vent du large au fond de mes poumons, s'élancer dans l'univers, mes pensées qui décollent, et que j'aurais envie de rêver en musique et paroles. Ma joie de vivre libre sur le chemin qui bien parti faire le tour du monde avec toi.
La joie de vivre, Jacques Higelin sur France Inter, pour elle, pour lui, pour vous tous, la joie de vivre, en tout cas on vous le souhaite. Dans cette émission, CO2 Mon Amour avec Yann Kefelec qui donc est rédacteur en chef de cette émission, qui choisit les sujets avec sa sensibilité personnelle. Tout à l'heure on est passé un peu vite sur Brest, on écoutait Miossec. Si on parle d'écologie urbaine, on constate que cette ville, on le sait, qui a été bombardée pendant la guerre, mais il y a encore quand même quelques jolis vestiges. Est en train de changer à une vitesse folle.
Bah, pendant longtemps, on a déclaré que Brest était la ville la plus laide de France, ce qui d'ailleurs a toujours été une erreur, parce que lorsqu'on arrive en train à la gare de Brest, on a l'impression de descendre d'un vieux cargo. Le train n'est plus un train, mais un bateau. Et là, on prend la rade dans ses bras. C'est cette rade qui est une des plus belles du monde. Et je ne connais pas une autre ville en France où l'on ait cette sensation prodigieuse. Mais Brest, donc, déclarée ville laide, aujourd'hui, avec son tramway, a pris sa place dans le paysage. C'est une ville joyeuse, c'est une ville dynamique, c'est une ville où il y a énormément de jeunesse, où il y a un vrai bonheur d'exister. Et personnellement, je ne me balade plus dans le Brest avec le sentiment de me retrouver dans une ancienne ville bombardée. Au contraire, c'est art déco, les rues tournent bien, sont profondes. On voit partout où l'on est dans Brest, on voit la mer. Et finalement, cet horizon fait partie du mobilier urbain. Donc, chapeau à la ville de Brest.
Et on pourra bientôt relier aussi deux endroits de Brest, au-dessus de la mer, avec un téléphérique, parce que là, on va s'intéresser au câble. On se dit, bah, tiens, maintenant, le câble. En France, c'était pas dénigré, mais de nombreuses villes sont en train d'y penser, par exemple la ville de Toulouse. C'est-à-dire
tant qu'on ne relie pas Ouessant à la ville de Brest un pont comme à l'île de Ré, là, je suis d'accord. Moi, je vais m'immoler sur la place de Brest le jour où cette idée vient à la surface.
Alors, de toute façon, vous avez un petit peu de temps pour le faire parce que, un, il n'y a plus de fric. Et deuxièmement, ce n'est absolument, quand vous voyez Ouessant, quand même, où c'est par rapport à Brest, ça me paraît quand même un peu compliqué d'aller traverser la mer.
Je me méfie des industriels. Méfiance avec les industriels.
Bon, le pire n'est jamais sûr. On le sait très bien. Tante Amata et Oncle Jo venaient vous chercher à Brest. C'était ça, quand vous arriviez avec 10 heures de train et des escarbilles plein les yeux.
Ah oui, là, parce que ce livre est aussi, c'est l'histoire de ma famille. Alors, j'ai pas eu de grandes difficultés à la raconter. Je me suis souvenu de ces grandes tablées familiales qui se réfléchissaient dans un miroir mural de la salle à manger. Je suis retourné dans ce miroir comme Alice entre dans le terrier des merveilles et j'ai décrit cette tante Amata et cet oncle Jo qui vivaient au Vietnam, qui envoyaient régulièrement à sa mère, ma tante Jeanne, qui jouait de l'harmonium dans l'église de la Nilnut, il lui envoyait les peaux des tigres qu'il avait abattus lui-même à la machette, voire des peaux de pitons. Il y avait un piton de 8 mètres de long que ma tante Jeanne d'ailleurs essayait de terminer parce qu'il n'avait plus sa tête, en tricotant un interminable ruban de laine grise.
Oui, d'accord. Et ben là on retrouve ceci aussi dans ce dictionnaire amoureux. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder un troisième sujet. Vous l'avez commencé d'ailleurs tout à l'heure. On va parler des énergies marines. C'est intéressant parce que là aussi, autre source, transition, changement de civilisation. Et on va faire avec Michel Payard, qui est ingénieur à l'IFREMER, on va dire un petit inventaire, s'il vous plaît, Michel Payard, des énergies marines. On ne va pas toutes les développer, je veux dire, parce que chacune mériterait qu'on en parle 10 minutes, un quart d'heure. Mais où en est-on aujourd'hui ?
Alors, va revenir un peu dans l'histoire, c'est-à-dire l'énergie la plus mature, c'est bien évidemment l'énergie marémotrice, qui a effectivement relativement peu d'applications actuellement pour des raisons notamment peut-être un peu environnementales, mais qui par le passé a été très très développée par les moulins marais, que l'on a vu depuis, je dirais, au moins un millénaire le long des côtes de France, notamment en Bretagne. L'énergie donc potentielle de la marée qui a été utilisée jusque vers les années 60 dans les moulins à marée et après qui s'est prolongée par l'usine marémotrice de la Rance qui a été inaugurée en 1966, mise en service en 1967 et qui est toujours une contribution faible évidemment, mais pour la Bretagne, je dirais, relativement importante quand même par rapport à la faible production électrique en Bretagne au niveau de la production en France.
Alors ça, c'était pour les anciens. Maintenant, parlons des parcs éoliens en mer que l'on connaît, qui sont matures.
En fait, les installations de parcs éoliens offshore ont commencé il y a une vingtaine d'années en Europe du Nord, au Danemark, et puis se sont développées de façon industrielle à partir du début des années 2000, donc les premiers parcs avec des machines de puissance de l'ordre entre 2 et 3 mégawatts unitaires ont été installés il y a déjà une dizaine d'années. Les Danois étaient en fait les leaders de ces technologies-là qui avaient été développées antérieurement pour l'éolien terrestre.
L'énergie hydrolienne est totalement prévisible et ne dépend que des cycles lunaires. L'énergie mécanique, produite par l'action des courants de marée, est transformée en énergie électrique. À chaque cycle de marée, le courant s'inverse et la turbine fonctionne donc de manière réversible. L'électricité, produite par le stator des machines, est évacuée par un câble, depuis les hydroliennes, jusqu'à un convertisseur électrique, situé à proximité des machines, au fond de la mer. L'énergie est ensuite acheminée jusqu'à la côte par un câble en courant continu, qui permet ainsi de ne générer qu'un champ électromagnétique statique de très faible intensité, de l'ordre de celui du champ magnétique terrestre.
Parlons maintenant des technologies, on va dire, un peu moins matures, mais que l'on connaît. On a entendu ce son sur les hydroliennes. Que peut-on en dire?
Alors, les hydroliennes, c'est en fait c'est l'utilisation de l'énergie cinétique du courant de marée. Il y a déjà beaucoup de machines qui sont en test à l'échelle 1, donc de l'ordre entre 500... kilowatts unitaires jusqu'à plus de 1 mégawatt unitaire. Il y en a une qui a été testée déjà en Bretagne au large de Paimpol, là, qui va être à nouveau testée à partir du mois de septembre. Et puis il y aura des parcs pilotes qui vont être installés le long des côtes de Basse-Normandie et de Bretagne à une échéance de quelques années.
L'exploitation de l'énergie des vagues, qu'on appelle l'énergie houlomotrice.
Le potentiel au niveau mondial, le potentiel naturel de l'énergie des vagues, il est vraiment très très important. Notamment pour les zones isolées, les îles, etc., où le coût de l'énergie, le coût de l'électricité produite est très très cher.
Alors quel est le principe, s'il vous plaît?
Il y a de nombreux concepts. En fait, il faut arriver à récupérer le mouvement de la masse d'eau. Et le problème qui est posé, c'est que comme il est hors de question de ramener les machines à terre lorsqu'une tempête est annoncée, il faut absolument que les machines et l'ensemble du système d'ancrage, etc., soient conçus pour passer des événements extrêmes. Donc ça conduit à un dimensionnement de type offshore pétrolier, je dirais. Enfin, on a déjà connu ça pour les plateformes offshore. Et donc avec un modèle économique qui est quand même un peu complexe, parce qu'effectivement, on a des coûts sont effectivement pour l'instant rédhibitoires. Donc la maturité de l'énergie de la houle viendra un peu plus tard et il y aura probablement des premiers parcs plutôt entre 2020 et 2030.
Michel Paillard, parlons maintenant de l'énergie thermique des mers et l'énergie osmotique. Qu'est-ce que c'est?
Alors l'énergie thermique des mers, c'est la récupération de l'énergie qui peut être produite à travers un cycle thermodynamique par de l'eau chaude puisée en surface de la mer dans les zones intertropicales où elle peut être à 26, 25, 26, 27 degrés et l'eau froide qu'on va aller puiser à 800 ou 900 mètres de profondeur à quelques degrés, 5-6 degrés, on va avoir un delta de une différence de température de l'ordre d'une vingtaine de degrés, on va faire tourner un cycle thermodynamique qui va permettre de produire de l'électricité. Donc ça intéresse évidemment la zone où il y a de l'eau chaude en surface, donc la zone intertropicale, donc avec une ressource évidemment également importante. Il y a beaucoup de travaux de recherche parce qu'avec les nouvelles technologies, on peut apporter des solutions qui n'étaient pas possibles d'obtenir il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans.
Oui, et enfin, mettons le sel dans l'affaire avec l'énergie osmotique.
Alors l'énergie osmotique, c'est effectivement, de la même façon, c'est récupérer de l'énergie qui est produite, enfin c'est la pression osmotique qui est produite lorsqu'on mélange deux eaux de salinité différentes à travers une membrane semi-perméable. Donc il se crée un mouvement de l'eau douce vers l'eau salée et ainsi une différence de hauteur, ce qu'on peut conduire à être la pression osmotique. Et là, il faut effectivement avoir des surfaces importantes de membranes semi-perméables, puisqu'en fait, on peut récupérer quelques watts par mètre carré. Donc on voit bien qu'avant d'avoir une exploitation industrielle, il va falloir avoir fait des progrès sur les rendements et sur les coûts des membranes semi-perméables qui sont en phase de développement et de test.
Voilà, Michel Payard, donc ingénieur à l'IFREMER, vous écoutiez attentivement donc cet homme, Yann Kefelec.
Oui, je l'ai trouvé passionnant parce que il nous décrit des gisements de métiers pour le futur. On a l'impression en fait qu'il y a aussi des notes d'espoir. Moi, je vois les choses en termes de santé et en termes de coup d'œil. Ce qui me gêne un peu avec les éoliennes, c'est que je les trouve affreuses. Mmh. Et je me demande quelle quantité d'éoliennes il faudrait implanter en mer pour produire suffisamment d'électricité qui viendrait en remplacement de celles que nous apportent les centrales nucléaires ou d'autres énergies d'ailleurs. Je suis pas un défenseur forcené de l'énergie nucléaire. Quant aux hydroliennes, on ne les voit pas et ça, c'est aussi un avantage considérable à mes yeux.
Alors aujourd'hui, on est plutôt parti sur un mix énergétique que l'on appelait de nos voeux, mais qui a été quand même, en ce qui concerne que la partie électricité, je dirais un peu noyauté par le nucléaire en France. Mais aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. C'est-à-dire que même au CEA, même dans le corps des mines aujourd'hui, on comprend bien que les énergies renouvelables sont aussi un avenir. On n'a plus du tout le même discours depuis, on va dire, quelques années là-dessus. Mais donc, c'est intéressant de voir... Même si ce sont des pistes aujourd'hui.
C'est très intéressant parce que ça permettrait éventuellement de rendre aux Bretons ces métiers de la mer qu'ils ont perdus. Ce sont les métiers du futur, mais c'est un futur qui est tout proche.
Alors, il y a quelque chose quand même, je parlais de la loi littorale tout à l'heure, c'est quand même un peu le bétonnage des côtes.
Ça, pour moi, c'est absolument odieux, hein, cette prolifération des parkings, comme ce qu'on voit n'importe où, là, le long des plus belles plages d'Europe. C'est pas possible d'arriver à Saint-Nic-Pentresse, par exemple, et de voir la baie de Douarnenez, mais par-dessus toutes ces carrosseries miroitantes au soleil. Et on sait d'ailleurs que ce parking isole la plage de Pentresse d'un marais naturel qui contribuait à l'écologie de l'endroit. Et il n'y a pas qu'un, je cite Saint-Nic-Pentresse, il y en a énormément de ces parkings odieux en Bretagne qui sont là pour simplifier la vie du touriste lorsqu'il va se baigner l'été.
Oui, donc la serviette, on va dire directement sur la plage, il ne s'agit pas, enfin c'est pas un plaidoyer anti-bagnole, c'est pas ce que vous êtes en train de dire.
Ah non, pas du
ça
tout.
Ça peut peut-être
non,
se mettre ailleurs, ça
complètement,
vous dites.
Mais de toute façon, pour ce fameux parking de Saint-Nic-Pentresse, il suffisait de le mettre un tout petit peu en retrait, on avait 300 mètres à faire à pied, et puis voilà, c'était magnifique.
Quelle image de Bretagne vous avez envie de nous laisser naturelle avant que nous nous quittions?
Eh bien écoutez, moi je constate que la Bretagne est toujours aussi belle. Voilà, j'ai passé un certain nombre d'années sur la Terre, et je compte bien d'ailleurs en passer encore autant, mais je n'ai pas l'impression que cette région ait été détruite encore par le progrès, par le béton. Cela dit, il faut sans cesse tirer des signaux d'alarme et combattre, comme sont actuellement en train de le faire ces gens de Trébeurden, pour éviter que leur sable parte en fumée.
La mer et la Bretagne veillent sur votre liberté, Yann Kefelec.
Ah ben, je ne peux pas vivre sans mer ni Bretagne. Je suis à moi seul, je suis une petite enclave bretonne. Je me sens breton partout où je passe dans le monde et je suis sans arrêt en train d'imaginer la mer, de voir l'horizon et d'espérer m'y rendre en voilier.
Et de croire à ce que l'on ne voit pas, parce que même athée, le breton est croyant.
Eh bien, le breton, il naît croyant avant même de s'être fait une certaine idée de la divinité. On sait bien d'ailleurs qu'il y a dans la musique bretonne à la fois des accents profanes et des accents sacrés, et ça n'enlève absolument rien au fait que les menhirs christianisés, que nous avons longtemps vénéré en Bretagne soit un lien avec le Très-Haut.
Je vous renvoie chez Plon à ce dictionnaire amoureux de la Bretagne de Yann Kefelec. Grand merci à vous.
Hein. Non, c'était un vrai bonheur.
Michel Béziquion et Éric Morin étaient à la technique, assistés de Virginie, le duo bretonne. Yann Le Dantec tenait, c'est intéressant aussi, il faut le citer, parce que c'est lui qui a illustré le petit reportage sur les moiteries dactyles. Compositeur, Fabrice Lègue a réalisé l'émission. Merci à Albert Houck, à Jean-Baptiste Audibert qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui a nourri les sites de CO2 Mon Amour. Donc là, n'hésitez pas, hein, le peuple des dunes, le sable enquête sur une disparition, le documentaire qu'on a vu sur la 5, etc. Donc tout y est. N'hésitez pas non plus à laisser vos messages, à correspondre les uns avec les autres. L'actu du Bon Petit Loup, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux. À demain à 15h, vivre avec les bêtes, à ne pas le louper sur France Inter, Alain Bougrain-Dubourg. On y va.